Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de l'équipe de football du FLN. Le 14 avril 1958, la France découvre, stupéfaite, qu'une quinzaine de joueurs algériens du championnat de France de football sont portés disparus. Des joueurs qui, pour certains, sont de grandes vedettes du championnat de première division. Deux d'entre eux sont même sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde qui doit se tenir quelques semaines plus tard en Suède. Nous parlons donc de l'élite. Quatre ans après le début de la guerre d'Algérie, eh bien ces joueurs sont en réalité partis pour Tunis, là où se trouve le quartier général du FLN. Ils ont décidé de tout quitter pour combattre, à leur manière, sous le drapeau algérien. Durant plus de 4 ans, ces footballeurs habitués aux rencontres de haut niveau et au stade de première division vont parcourir le monde et faire parler d'un conflit dont la France tente à tout prix de cacher l'importance. Une histoire qui montre une nouvelle fois également à quel point les enjeux du football dépassent souvent les enjeux du sport. Nos invités aujourd'hui, ils sont deux effectivement, Stanislas Frenkiel, historien, maître de conférences à l'université d'Artois, auteur du livre intitulé « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage », et Slim Rouaille, le fils de l'ancien joueur Amar Rouaille, qui avec ses camarades a tout quitté en avril 58 pour partir jouer sous les couleurs algériennes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lollet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
La saison fait la part belle à la jeunesse. Moscou a fait un accueil d'un extraordinaire enthousiasme aux délégués étrangers venus participer au Festival de la Jeunesse. Nouvelle Babel, on parle bien aujourd'hui une centaine de langues différentes dans la capitale soviétique. La présence à la tribune officielle des chefs soviétiques a quelque peu fait peser sur cette manifestation le soupçon de visée politique. Mais tous les observateurs s'accordent pour confirmer l'élan de sympathie et de curiosité qui porta le peuple soviétique vers les délégations étrangères.
Moscou, 28 juillet 1957. Les tribunes du stade Lénine sont pleines à craquer. Des dizaines de milliers de spectateurs acclament les délégations des 131 pays venus participer au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, placé cette année sous le signe de l'amitié des peuples, une formule typique de la propagande soviétique. N'empêche que la 6e édition de ce festival attire près de 34 000 visiteurs dans les rues de la capitale soviétique. Staline est mort 4 ans auparavant. Disons que l'URSS devient plus fréquentable et tous les grands pays de l'Ouest sont présents. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France envoient leurs délégations, par exemple. Mais en ce jour d'ouverture du festival, il y en a une en particulier qui attire l'attention de la foule. Elle n'est composée que d'une dizaine de personnes qui brandissent fièrement le drapeau vert et blanc de l'Algérie. À sa tête se trouve Mohamed Boumezrag. Cet ancien footballeur professionnel, passé par les Girondins de Bordeaux, le Red Star ou encore le Mans, est désormais un membre actif de la Fédération de France, du FLN, le Front de Libération Nationale, qui œuvre pour l'indépendance de l'Algérie. Le voilà donc, incarnation d'une petite équipe de footballeurs composée d'étudiants algériens vivant à l'étranger, une diaspora du ballon rond. Cela fait plusieurs semaines qu'il prépare son coup. Avec Omar Bouadoud, le président de la Fédération de France du FLN, il est convaincu de la nécessité d'exporter la cause algérienne sur la scène internationale. Et le pari de l'ancien footballeur devenu militant est un franc succès. Lors de la parade d'ouverture, la foule applaudit chaleureusement au passage du drapeau algérien et Mohamed Boumezrag reçoit même les félicitations du numéro 1 soviétique Nikita Khrouchtchev. Durant le tournoi organisé lors du festival, l'Algérie s'impose contre l'Italie, l'Autriche et même la France. Mais au-delà du succès sportif, la présence de cette délégation est un coup diplomatique, car c'est la toute première apparition officielle du drapeau algérien sur la scène internationale. Et c'est bien sûr un épisode pour l'histoire, essentiel pour les dirigeants du FLN, qui peinent à faire parler du conflit qui sévit alors depuis 3 ans chez eux, et qu'il n'est encore qu'un morceau de France de l'autre côté des rives de la Méditerranée.
Ici Alger, RTS. Tout Alger commente aujourd'hui l'attentat d'une invraisemblable audace qui a coûté la vie au commandant Rodier, chef de cabinet du général Talant. Une fois de plus, l'opinion est bouleversée et révoltée par les deux attentats dramatiques qui ont marqué la journée d'hier. En effet, les explosions n'ont pas fait moins de 12 morts, dont 9 Européens et 3 musulmans, et on parle d'une soixantaine de blessés. Il est encore trop tôt pour connaître le bilan exact des incidents déplorables, mais faciles à expliquer, qui ont marqué les obsèques de 5 des jeunes victimes de l'attentat à la bombe du casino de la Corniche.
Ici Alger,
à vous Paris.
De retour en France, après son escapade en terre soviétique, Mohamed Boumezrag imagine déjà la suite à donner à ce premier lever de drapeau algérien. Quelques semaines seulement après son retour à Paris, il reprend contact avec Omar Bouadoud, le président de la Fédération de France du FLN. Il lui fait part d'une idée qui lui trotte dans la tête depuis cette parade sur la piste d'athlétisme du Stade Lénine. Prolongement logique d'ailleurs dans son esprit. Il veut créer la première équipe nationale de football algérienne. Le soutien populaire reçu à Moscou l'a convaincu que le combat pour une Algérie indépendante doit aussi passer par les terrains de foot. Mais son idée ne s'arrête pas là. Non, il veut recruter les meilleurs joueurs algériens parmi ceux qui évoluent dans le championnat de France. Ils sont une trentaine à jouer en première et en deuxième division. Omar Boudaoud valide l'idée de l'ancien joueur et lui propose de peaufiner son plan avec l'aide de deux hommes, Mokhtar Haribi et Abdelaziz Bentifour. Le premier est l'entraîneur-joueur du club d'Avignon, le second est l'attaquant vedette de l'AS Monaco et international de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football 54 en Suisse. Les deux hommes sont déjà proches des réseaux du FLN en France. Dès l'automne 57, Haribi, Bentifour et Mohamed Bouzmezrag se mettent au travail. Ils commencent par dresser une liste de recrues potentielles. Et, insistons sur ce point, il est important que des têtes d'affiche. Il y a Amar Ouahi, jeune attaquant d'ISCO d'Angers, Hamid Karmali, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, ou encore Hamid Bouchouk et Saïd Amara, deux joueurs du club de Toulouse. Il y a aussi Mohamed Maouche, un jeune joueur de 20 ans, tout juste recruté par le grand stade de Reims de Raymond Coppa et Juste Fontaine, finaliste l'année précédente de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions d'aujourd'hui. Rien que ça, et quasiment, en fait, ces joueurs, que des Zidane ou des Benzema. Et voyez le niveau. Dans le documentaire « La mémoire retrouvée », réalisé par Cheikh Djemaï, Mohamed Maouche raconte comment, justement, le recruteur du FLN lui a fait part de son projet d'équipe nationale.
Moi, je sais que je l'ai rencontré la première fois vers la mi-décembre, c'est là où il m'a mis au courant. J'étais militaire à l'époque, au bataillon Joinville, en compagnie de mes cloufis. C'était à son retour donc des Jeux de l'amitié de Moscou. Et là, il m'a dit, j'ai eu l'idée de former cette équipe. Mais il me dit, attention, motus. Je dis motus parce qu'il me dit, on n'a encore averti personne.
Effectivement, dans la plus grande discrétion et pendant plusieurs semaines, les trois recruteurs profitent des journées de championnat pour se déplacer à travers l'Hexagone et établir le contact avec les joueurs ciblés. Lorsqu'ils sont dans le sud de la France, ils posent leurs bagages à Nice. Abdelaziz Bentifour y est propriétaire du Carillon, un bar-restaurant. C'est un lieu connu de la diaspora algérienne de la région. On y stocke des armes. On y reçoit des membres du FLN et on y fait transiter la collecte de l'impôt révolutionnaire versée par les Algériens de France. Et c'est bien dans le sud du pays que se trouve une majorité des joueurs qu'ils veulent recruter, ça tombe bien. 4 de Monaco, par exemple, coéquipier d'Abdelaziz Bentifour. Il y a le gardien de but, Abderrahmane Boubekeur, et les attaquants Saïd Brahimi et Kadour Bekloufi. Mais l'AS Monaco compte un autre international français d'origine algérienne dans ses rangs. Un joueur talentueux, convoité par le Real Madrid et qui doit disputer la Coupe du Monde en Suède en juin 1958, un certain Zitouni.
Ici, le Parc des Princes. Coup d'envoi par les Espagnols, la balle immédiatement pour Saint-Estéban. Première intervention des Français par Kelbel. Carmelo jusqu'à la tête de Zitouni, Zitouni Wisniewski, qui dégage en direction de Di Stefano Zitouni, Zitouni prend son temps, renvoie à Duis, numéro 10 inter de l'équipe d'Espagne, qui lance loin à suivre pour Di Stefano, Zitouni, et finalement Zitouni, oh là là que c'était dangereux, c'est Zitouni cette fois-ci qui surveille Di Stefano, qui s'appuie un petit peu sur le dos.
La tête d'affiche Mustapha Zitouni et les joueurs contactés par Boumezrag, Ben Kifour et Haribi sont tous mis dans la confidence. Sans leur donner immédiatement les détails de l'opération, tous sont invités à rejoindre les rangs du FLN et lutter balle au pied pour l'obtention d'indépendance. Mais certains sont plus difficiles à convaincre que d'autres. Mustapha Zitouni, par exemple, tente de négocier une participation à la Coupe du Monde en Suède. Après quoi, il filera discrètement rejoindre l'équipe algérienne. Mais pour Mohamed Boumezrag, c'est non. Le défenseur de l'AS Monaco part avec eux ou il ne part pas du tout. La date de l'opération est fixée au dimanche 13 avril 58. Et ça n'est pas un hasard. Lors de cette 30e journée du championnat, la plupart des 11 joueurs qui ont répondu favorablement à la proposition de Mohamed Boumezrag jouent dans un stade du sud de la France. Ils fileront donc à l'anglaise juste après leur match. Un premier groupe s'en ira après la rencontre Monaco-Angers, direction l'Italie. Une autre partie des joueurs passera par Genève avant de rejoindre le reste de l'équipe à Rome, pour finalement se rendre à Tunis, là où se trouve le siège du FLN. Pendant la semaine qui précède la grande évasion, seul un joueur ciblé par Mohamed Boumezrag n'est pas encore prévenu, Rachid Metloufi. Ce jeune footballeur prometteur joue pour l'AS Saint-Étienne, géant du championnat de France. À 22 ans, il est l'un des grands espoirs du football français. Il est d'ailleurs présélectionné pour la Coupe du Monde qui doit se tenir 2 mois plus tard aux côtés du Monégasque Mustapha Zitouni. Comme Mohamed Maouche, Rachid Metloufi est militaire. Les joueurs effectuent leur service au bataillon de Joinville, une unité réservée aux sportifs de haut niveau. L'année précédente, Metloufi remporte la Coupe du Monde de football militaire disputée à Buenos Aires. C'est le 12 avril qu'il est approché, la veille du match Saint-Étienne-Béziers. Beaucoup plus tard que les autres d'ailleurs. Car son père est policier. Les recruteurs redoutent que le jeune homme ne se confie, que l'opération tombe à l'eau et que, surtout, tout se soit envoyé derrière les barreaux. Dans le documentaire de Cheikh Djemaï, La mémoire retrouvée, Rachid Metloufi raconte cette prise de décision sans délai.
La seule question que j'ai posée, je leur ai dit, je suis militaire. On m'a dit, bien, qu'est-ce que tu veux ? C'est tout. Après, encore une fois, j'étais inconscient. C'est-à-dire, bon, peut-être que si je m'étais dit, oui, mais je suis militaire, si on m'attrape, etc. Mais j'aurais pu me faire arrêter, mais j'étais, encore une fois, inconscient et je suis parti.
Le 13 avril, l'opération est lancée. Après leur match, les joueurs mettent le plan d'application. Chacun a préparé sa fuite et part avec femme et enfant en train ou en voiture. Le groupe qui doit passer par l'Italie se retrouve, lui, sans encombre à Rome. Mais pour celui qui doit transiter par la Suisse, c'est une autre histoire. Le dimanche soir, Rachid Metloufi se blesse violemment la tête durant son match. Il est emmené à l'hôpital, contraint d'y passer la nuit en observation. Le lendemain matin, Mokhtar Haribi et Hamid Karmali, qui devaient le récupérer à la fin du match entre Saint-Étienne et Béziers, se rendent dans sa chambre d'hôpital et le sortent de son lit. Parce que le temps presse, oui, ils doivent à tout prix passer la frontière. Comme des espions, les 3 hommes sortent discrètement de l'hôpital et embarquent dans une voiture direction la Suisse. Au poste frontière, ils tombent sur un douanier qui les reconnaît et prend le temps de discuter avec eux. Ce douanier ne sait pas encore que les 3 hommes sont en fuite. Pourtant, ils sont déjà recherchés par les autorités. Alors s'il avait été dans sa cabine pour écouter le flash info, le douanier n'aurait peut-être pas demandé un autographe, non, car il aurait entendu ceci.
Ici, le studio de Paris vous parle aux Champs-Élysées. Vous savez, nous l'avons appris déjà hier soir au cours de cette émission, qu'un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Metloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur.
Les 3 joueurs parviennent finalement à rejoindre la Suisse où les attend le reste du groupe. Le lendemain, tout le monde est prêt à embarquer pour la Tunisie à bord d'un vol Air France.
Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même si paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses. Elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Le 15 avril 1958, les Algériens footballeurs déserteurs débarquent à Tunis. Mais l'un d'eux, retenu par Mohamed ou Mezrag, n'est pas là. Une information que les journaux radio ne manquent pas de relayer.
Et avant d'en venir aux conséquences sportives de cette fugue, je crois qu'il faudrait donner une précision. L'un des joueurs qui se trouvait, Robert Chapat, dans la situation de Mekloufi, a pu être appréhendé cet après-midi.
Oui, Mahouche, le Rémois, a été arrêté à Saint-Louis au moment où il passait la frontière franco-suisse pour se rendre à Berne. Il a été remis à la disposition des autorités militaires puisqu'il appartient, comme vous le savez, au bataillon de Joinville.
Alors, Mahouche est pour l'instant, comme le disait Roland Dordain tout à l'heure, un militaire en situation illégale, mais il n'est pas encore déserteur.
Pas encore déserteur, d'accord, mais en tant que militaire, il risque de se retrouver devant le conseil de guerre et même de terminer face au peloton d'exécution. Mais grâce au président d'honneur de son club, le Stade de Reims, un général à la retraite, il évite le pire et termine son service militaire dans une unité de chasseurs alpins à Chamonix. Mais l'arrestation de Mohamed Mahouche n'est pas le seul problème auquel les footballeurs algériens doivent faire face. Contrairement à ce qu'ils pensaient, personne ne les attend à leur sortie de l'avion, non ? Aucun taxi ou minibus, aucun officiel du FLN pour les accueillir, rien. Abdelaziz Bentifour, qui connaît bien Tunis où il a joué durant 2 ans, leur propose alors de se rendre à l'hôtel Majestic. Ils y prennent tous une chambre en attendant que la situation évolue. Mais à peine arrivé à l'hôtel, Abdelaziz Bentifour abandonne ses nouveaux coéquipiers et file au quartier général du FLN à Tunis. Il veut aller à la rencontre du commandant Kassi, un haut responsable local. Mais là encore, douche froide. Les autorités locales n'étaient pas au courant de cette opération et de l'arrivée d'une équipe entière de footballeurs pour représenter l'Algérie. D'ailleurs, le commandant du FLN lui répond sèchement qu'il y a déjà une équipe algérienne. Celle de l'ALN, l'armée de libération nationale, composée d'un groupe d'étudiants actuellement tourné au Moyen-Orient. Bentifour tente bien de raisonner le commandant Kassi. Eux ne sont pas les étudiants de l'équipe de l'ALN, ils sont des footballeurs professionnels, de haut niveau, des internationaux pour certains. Mais le commandant ne veut rien entendre et congédie le footballeur. « De retour à l'hôtel, Bentifour est dépité, si près du but, sans jeu de mots. Alors, avec quelques joueurs, il décide d'aller se promener dans la casbah de Tunis pour se changer les idées. Après quelques heures à déambuler dans les rues, le petit groupe s'apprête à rentrer à l'hôtel. Mais l'un des joueurs remarque un attroupement qui se forme là, juste devant eux. C'est une horde de journalistes qui sont à leur recherche dans les rues de Tunis. Et c'est un coup de pouce inespéré pour ces joueurs, dont certains pensaient déjà à rentrer en France et demander le grand pardon. Dans la mémoire retrouvée, le documentaire de Cheikh Djemaï, Amar Rouhaï et Kadour Bekloufi racontent ce retournement de situation.
Bon, le lendemain, le commandant a entendu, il y a des journalistes qui viennent de la Belgique, de Paris Match. C'est là où il a commencé à prendre des photos. Voilà, c'est la vérité.
Mais le FNM a été, l'équipe FNM a été créée grâce à la presse.
Non, parce que dans l'histoire, on dit que ça a été un appel du FLN.
Rien.
En fin de compte,
il n'y avait rien du tout, parce qu'un appel du FLN, comment un appel du FLN, et que le haut responsable en Tunisie n'était pas au courant. Ça, c'est... Ça peut pas marcher. Il faut pas être sorti sincère pour analyser la chose.
Le lendemain matin à l'hôtel, c'est la cohue. Les journalistes se sont passés le mot et attendent tous dans le hall, espérant obtenir les réactions des joueurs. Face à ce raz-de-marée médiatique, le commandant Cassi, qui ne voulait pas entendre parler de cette équipe de football, est obligé de se rendre à l'évidence. Et il reconnaît l'impact de l'initiative prise par les hommes de Mohamed Boumezrag. Dans l'Hexagone, les répercussions sont immenses. Si la radio et la télé sont plutôt discrètes sur le sujet, les journaux de la presse écrite, eux, font tous leur une sur ces 10 footballeurs déserteurs. Paris Match consacre même 6 pages à cette histoire et titre « Vedettes du football, les voilà devenus Felaga ». Sur une double page, on peut voir une photo d'une partie des joueurs assis à la terrasse du Carillon, le restaurant d'Abdelaziz Bentifour à Nice. On les voit siroter une coupe de champagne. Et le journaliste insiste. Maintenant, ils sont au pays des femmes voilées et de l'eau. Ils n'étaient pas si malheureux en France. Cette opération voulait inscrire le conflit algérien dans le jeu diplomatique. Eh bien, c'est gagné. L'arrivée de l'équipe est un coup de tonnerre, salué par le président tunisien Habib Bourguiba, qui la reçoit pour la féliciter. Après cette arrivée remarquée, Mohamed Boumezrag veut mettre les joueurs au travail et décide qu'il est temps de commencer les entraînements. Bien, les footballeurs quittent leur hôtel, le FLN les installe dans un quartier résidentiel de Tunis. Chaque joueur dispose d'un logement pour lui et sa famille, d'un salaire de 50 000 anciens francs et de tout l'équipement nécessaire. Le 9 mai, l'équipe de football du FLN dispute son premier match. Une rencontre en ouverture d'un tournoi qui oppose le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Les footballeurs algériens gagnent leur premier match 2-1 contre le Maroc. Le surlendemain, ils surclassent la Tunisie 6-1 et remportent évidemment le trophée. Au même moment à Paris, la crise algérienne fait vaciller la République. Le 13 mai, un comité de salut public en faveur d'une Algérie française est institué par des généraux qui réclament le retour du général de Gaulle. Et le 29 mai, celui que le président René Coty appelle le plus illustre des Français est de retour au pouvoir.
Ici Paris, Radiodiffusion Télévision Française. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes et nous vous mettons en communication avec le Palais de l'Élysée.
Ici le Palais de l'Élysée, où l'on vient de nous distribuer le texte du message du président de la République au Parlement. Nous voici maintenant au bord de la guerre civile. Après s'être depuis 40 ans tant battu contre l'ennemi, les Français vont-ils demain se battre contre les Français ? Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté. Je demande au général de Gaulle de bien vouloir venir conférer avec le chef de l'État et d'examiner avec lui ce qui, dans le cadre de la légalité républicaine, est immédiatement nécessaire à un gouvernement de salut national et ce qui pourra, à échéance plus ou moins...
La crise politique française ne fait que renforcer la conviction des footballeurs d'avoir fait le bon choix. Parce que la France est en train de trembler face au chaos algérien.
Après le premier tournoi contre la Tunisie et le Maroc, les joueurs algériens partent en Libye disputer une série de rencontres contre des clubs locaux. Et là encore, les joueurs professionnels font parler leur talent et remportent tous leurs matchs. Mohamed Boumezrag et les autres responsables de l'équipe tentent alors d'organiser des tournées avec des sélections de haut niveau cette fois. Mais ils doivent faire face aux menaces de la FIFA, qui se range toujours du côté des plus forts et de l'ordre mondial établi. Sous la pression de la France, donc, et en l'occurrence, la Fédération internationale de football a déjà suspendu tous les joueurs en fuite. Mais elle a également menacé de sanctions toutes les équipes qui rencontreraient les footballeurs algériens. Ainsi, le Maroc et la Tunisie ont-ils vu leur adhésion à la fédération annulée en raison du tournoi disputé contre l'équipe du FLN. Durant l'été 58, les footballeurs algériens suivent avec assiduité le parcours de l'équipe de France qui termine 3e du mondial en Suède après une victoire 6-3 contre l'Allemagne en petite finale. C'est aussi durant l'été que de nouveaux footballeurs viennent renforcer l'équipe du FLN, des transfuges de l'équipe de l'ALN et quelques joueurs qui ont réussi à quitter clandestinement la France. En septembre 58, les responsables de l'équipe espèrent disputer une rencontre contre l'Égypte où vient de s'installer le tout nouveau gouvernement provisoire de la République algérienne, alors dirigé par Ferhat Abbas. Mais le président égyptien Nasser, dont l'équipe de football vient d'être reconnue par la FIFA, refuse de prendre le risque de voir ses joueurs privés de rencontres internationales. Pour le grand football, il faudra attendre. Au début de l'année 59, l'équipe de foot algérienne s'engage pour sa première vraie tournée internationale, en minibus. L'équipe part disputer des rencontres en Jordanie, puis en Irak. Et encore une fois, le succès est au rendez-vous. Les équipes jordaniennes qu'ils rencontrent encaissent 33 buts en seulement 4 matchs. Les Irakiens, eux, sont torpillés 10-1. Au mois de mai, l'équipe prend la direction de l'Europe de l'Est. Alors pour contourner l'interdiction de la FIFA, toujours, les pays organisent des matchs avec des équipes qui ne sont pas les vraies sélections nationales. Mais le niveau est déjà plus élevé que lors des précédentes rencontres. En Bulgarie, les Algériens gagnent leur premier match, 1-0, mais sont battus 4-3 au match retour. Et en Roumanie, ils s'inclinent 5-2 contre un club local avant de gagner par le plus petit des scores contre le grand club du Rapid Bucarest. Les Algériens font ensuite un détour par la Pologne, puis disputent 3 matchs en URSS. En septembre, alors que l'équipe du FLN vient de partir en tournée en Asie, le général de Gaulle évoque pour la première fois la possibilité d'un droit à l'autodétermination pour le peuple algérien.
Grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui, au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter.
Le 15 octobre 59, l'équipe du FLN est reçue avec les honneurs en Chine, où les joueurs rencontrent Mao Tse-tung. Ils y séjournent 3 semaines et disputent 5 rencontres. Ils sont les ambassadeurs de l'Algérie, dans ce pays où peu de personnes connaissent l'existence de cette colonie française en guerre pour son indépendance. Mais sur le terrain de foot, les joueurs algériens sont si impressionnants qu'ils sont invités à prodiguer leurs conseils aux entraîneurs chinois. La suite de la tournée asiatique fait voyager la délégation algérienne au Nord-Vietnam pour 5 matchs sans réelle opposition. Mais les footballeurs font surtout des rencontres qui les marquent à vie. Dans le documentaire intitulé « Le 11 de l'indépendance » et réalisé en 2002 par Jean-Pierre Vedel, le joueur Amit Zuba raconte les messages que les dirigeants vietnamiens leur font passer lors de leur rencontre.
Nous avons serré la main tout le monde, mais celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit « Nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. » C'est diplomatique. Hein.
Cette prédiction-triangulation prend des allures de prophétie, parce que le 4 novembre 1960, le général de Gaulle annonce la tenue prochaine d'un référendum devant déterminer si oui ou non l'Algérie obtiendra et souhaitera son indépendance. Le 8 janvier 61, les électeurs français répondent oui à près de 75% des suffrages, un résultat qui annonce un dénouement proche pour le peuple algérien, mais qui envenime le conflit. Quelques semaines plus tard, en effet, l'OS, l'organisation de l'armée secrète, créée par des militaires et des civils proches de l'extrême droite, qui refusent de reconnaître l'indépendance prochaine de l'Algérie. L'organisation terroriste tuera plus de 2200 personnes. L'émancipation de l'Algérie est peut-être proche, mais l'équipe du FLN ne se relâche pas pour autant. Les footballeurs partent pour leur dernière tournée internationale. L'équipe s'est d'ailleurs renforcée en ce début d'année 61. Dès la fin de son service militaire, l'attaquant du Stade de Reims, Mohamed Maouche, arrêté par la police en avril 58, fait ses valises et organise la dernière vague de départ de footballeurs algériens vers la Tunisie. La sélection du FLN, qui compte maintenant une trentaine de joueurs, doit disputer un match de gala contre la grande équipe de Yougoslavie. Le stade est plein à craquer. Et les footballeurs démontrent une fois encore tout leur talent et inscrivent définitivement le style algérien dans l'histoire. Avec une attaque de classe mondiale et un enchaînement de buts à chaque match, ils gagnent le surnom de Harlem Globetrotters du football, en hommage à cette équipe de basket américaine qui faisait des tournées dans le monde entier, éblouissant les foules de son talent. Face aux grands Yougoslaves, le score est éloquent, les Algériens l'emportent 5-1. Après cette dernière tournée en Europe de l'Est, il rentre en Tunisie, dans l'attente du dénouement proche du conflit.
Inter-dernière heure, Germaine Bartoli au micro. J'appelle immédiatement notre envoyé spécial, Claude-Paul Pajard, à vous Évian.
Bien, à Évian, je vous le dis tout de suite, on a le sentiment que d'une minute à l'autre, il va se passer quelque chose. L'hôtel du Parc ne répond plus, les services de presse que nous appelons au téléphone sans cesse refusent de répondre à nos questions. De plus, un déploiement de forces spectaculaire vient d'envelopper cet hôtel du Parc où se tient depuis ce matin ce qui sera peut-être la dernière réunion de cette conférence d'Évian. Les hélicoptères sont arrivés il y a quelques minutes et l'on pense, et je dis bien on pense, que d'un instant à l'autre, les dégâts algériens vont quitter Évian pour la dernière fois. On attend le cessez-le-feu, on attend la paix. Je vous le répète, ici, à Évian, c'est vraiment du peu. À vous, Paris.
Le 18 mars 1962, le gouvernement français et les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne signent les fameux accords d'Évian. Des accords par lesquels l'Algérie obtient son indépendance après 132 ans de présence française et plus de 8 ans d'une guerre qui laisse derrière elle des milliers de morts. Le 19 mars, le cessez-le-feu entre en vigueur et les combats prennent fin en Algérie. En juin 62, le militant du FLN et futur président algérien Ahmed Ben Bella, longtemps emprisonné durant la guerre, se rend à Tunis pour rencontrer et remercier les joueurs. Cet ancien footballeur, oui, c'était un footballeur de l'Olympique de Marseille, mesure peut-être plus que les autres le chemin parcouru par cette équipe, qui a disputé 91 rencontres et remporté 65 victoires, et qui surtout a permis de faire entendre l'hymne algérien dans le monde entier. La paix revenue, une grande partie des joueurs part vivre en Algérie. Il contribue alors à la construction d'une équipe nationale qui connaîtra de grands succès internationaux et transmet une philosophie de jeu qui aujourd'hui encore est la marque de fabrique d'une équipe au jeu flamboyant, surnommée les Fellec, maillot vert et blanc. D'autres footballeurs comme Rachid Mekloufi décident de rentrer en France et poursuivre leur carrière de footballeur professionnel. Le meneur de jeu de la Saint-Étienne marque l'histoire de son club et reste l'une des icônes du stade Geoffroy Guichard. Plus tard, c'est l'immigration algérienne, deuxième ou troisième génération, qui fabriquera des stars françaises, à la tête desquelles Karim Benzema, et surtout l'un des trois plus grands footballeurs de l'histoire du foot français avec Coppa et Platini, Zidane bien sûr. Ma chicken toast is shanu. Tu hashnun besadi yazali. Ya yithran al juzi yadahu. Ma chicken toast is shanu. Tu hashnun besadi yazali. Ajari ajari. Sensible sur France Inter aujourd'hui, l'histoire de l'équipe de football du FLN dont nous allons parler avec nos invités. Ils sont deux. Stanislas Frenkel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien à l'université d'Artois, membre du laboratoire Sherpa et fondateur de la première chaîne YouTube d'histoire du sport. Ça s'appelle Temps de Sport, c'est ça, hein, Temps de Sport?
Exact.
On va en reparler à la fin, si on a le temps. Vous êtes deux et le temps est court. Slim Rouhaï, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le fils d'Amar Rouhaï, l'ancien joueur qui, avec ses camarades, a tout quitté en avril 58 pour partir jouer sous les couleurs algériennes. Stanislas Frenkel. C'est ça. Stanislas Frenkel, on va commencer avec vous. Ferhat Abbas, le président du gouvernement provisoire algérien, a dit que le départ des joueurs vers la Tunisie avait fait gagner 10 ans à la lutte pour l'indépendance. C'est lucide ou un peu too much quand même?
Bon, c'est vrai qu'on peut pas refaire l'histoire. Les événements d'Algérie ont duré 8 ans entre ce qu'on appelait les événements d'Algérie, entre 54 et 62. Ce qu'on sait, c'est que l'équipe du FLN a sans doute sa part, même modeste, et malgré la censure en France, dans un contexte où vous l'avez bien rappelé dans votre fabuleux récit, l'internationalisation stratégique du conflit est très claire de la part du FLN, où elle essaye d'isoler la France et de faire rayonner quelque part, de faire parler du cas algérien. Dans le monde entier, et la France est isolée à l'échelle mondiale de plus en plus, au niveau des États-Unis, au niveau de l'URSS, au niveau même d'Afrique et de l'Asie. Et ça, c'est bien les travaux d'historiens comme Connelly ou comme Robert Franck qui l'ont bien montré. Bref, oui, l'équipe du FLN a eu sa part dans cette image diplomatique, dans cette révolution diplomatique pacifique qu'elle a prise. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont refusé de partir? Parce que on a parlé du cas d'un joueur ou deux joueurs qui étaient sélectionnés pour la Coupe du Monde 1958, qui, je rappelle, hein, a été glorieuse pour la France. Les Français ont terminé troisième. Le Brésil avait gagné devant la Suède en finale. C'était la première grande performance française en Coupe du Monde, avant un grand trou, et puis avant de retrouver le succès. Bref, on imagine et on comprend pourquoi les footballeurs professionnels algériens, certains, voulaient sauvegarder quand même peut-être ce qui allait être le point culminant de leur carrière.
Tout à fait. Alors, dans cette équipe du FLN, on peut rappeler quand même que c'est une équipe qui est secrète, qui est complexe. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 13 de ces anciens maquisards du football, en fait. La majorité des survivants. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a 3 joueurs qui, en avril 58, ont refusé. Je pense notamment au milieu de terrain à Nîmes, Salah Djebaili, qui souhaitait poursuivre ses études, son doctorat en écologie à l'Université de Montpellier. Il y a aussi l'entraîneur emblématique des Crocodiles Nîmois, Kader Firoud, qui lui rendrait des services au FLN en métropole. Et enfin, le dernier, c'est le Rennais Kenan Mahi, que j'ai rencontré, qui lui, par 2 fois, en 1958 et 1960, va plus ou moins refuser de partir. En tout cas, ne va pas se présenter au rendez-vous. Et il sera désigné en 1961 joueur français de l'année par France Football. Donc oui, il y a des joueurs qui ont refusé, mais il faut rappeler qu'après 62, à l'indépendance, ils n'ont été ni menacés ni sanctionnés par la Fédération algérienne de football.
Et on rappelle hein, qu'on parle de joueurs de haut niveau. Enfin, c'est des stars, c'est pas des petits joueurs, c'est ce qu'il faut dire.
C'est des grandes stars. Vous avez cité Bentifour, vous avez cité Mekloufi, vous avez cité Zitouni. Ce sont des grandes stars. Ce sont des vedettes du championnat de France de football. La moitié d'entre eux mariés avec des Françaises qui ont acquis dans la métropole cette expérience émancipatrice. Ils ont gagné un statut social très élevé. Alors il y a des salaires dans l'équipe au moment où Zitouni part. Il y a une célèbre. 9 footballeurs algériens disparaissent en avril 58. On donne son salaire. Il est à plus de 100 ou 200 ou 300 000 francs par mois, ce qui est énorme, même au regard de ses équipiers, coéquipiers de Monaco.
Slim Roy, alors qu'est-ce que ça... Vous en avez parlé de cette aventure, enfin c'est une aventure, c'est un fait politique, hein, mais s'il y a un côté aventure aussi. Vous avez parlé avec votre père, j'imagine, il vous en parlait de façon passionnée, vous avez beaucoup parlé.
Absolument, j'ai grandi, j'ai baigné dans cette histoire depuis que je me rappelle de moi-même, quoi. Je veux dire, on a vécu à la maison cette histoire, toute la famille, pour mes frères qui sont partis un peu jeunes de chez moi, mais ma mère est un puits de d'histoire, elle aussi, quoi. Je veux dire, elle a vécu de son côté aussi cette aventure. Peut-être pas de la même manière parce que elle n'était pas sous les feux de la de la rampe, mais on a vécu toute notre vie, je veux dire, baignée par cette histoire et cette fierté de l'entendre avec la passion que mon père mettait dans chacun de ses récits, quoi.
Les familles, alors justement, les familles ont vécu ça en solidarité avec ce qu'on appelle chef de famille à l'époque. Mais est-ce qu'il y a des familles pour qui c'était un déchirement, qui l'ont mal vécu?
Peut-être que Stanislas sera plus à même de parler de ça. Je pense qu'il y a, eu des joueurs qui ont quitté, ou leur femme les a quittés, ou ils ont quitté leur femme, parce qu'il était... alors je laisse peut-être Stanislas parler.
Oui, mais je donnerai la parole après, Slim. Oui.
Merci Slim, mais là, tout de suite, je vois pas trop d'exemples là, mais ce qu'on voit quand même, et je le répète souvent à chacune de mes interviews, c'est le rôle, en fait, c'est le sacrifice de leurs femmes, notamment les femmes françaises. Slim ne l'a pas dit, mais sa maman Monique avait 20 ans quand elle est partie dans l'inconnu, dans l'incertitude la plus grande. Alors il y a la femme de Mustapha Zitouni, c'était Ghislaine, Catherine Bentifour, Pierrette Brahimi, Monique Roy, et voilà. Donc il y en a plein, en fait, de ces femmes françaises qui ont tout quitté, et souvent, d'ailleurs, elles ont été assez oubliées après 62 par l'État algérien, il faut quand même le rappeler.
C'est un point que j'aurais vraiment aimé soulever très rapidement.
Allez-y.
C'est les oubliés de l'histoire, en fait, dans tout ça, c'est vraiment les oubliés de l'histoire, parce qu'elles ont quitté leur pays. Pour l'anecdote, je veux dire, les gendarmes se sont présentés chez mon grand-père, parce que évidemment ils ont fait leur enquête et ils sont remontés jusqu'aux parents de ma mère, quoi. Je dirais, après, elle est partie dans l'inconnu, elle avait jamais quitté la France, évidemment, elle s'est retrouvée avec un enfant dans les bras et quitter la France pour l'inconnu total. D'ailleurs, même mon père le dit à un moment dans le reportage, ils sont arrivés là-bas, personne ne les attendait, alors.
Ah oui, on l'a dit aussi.
Femme,
ouais.
Voilà, pour une femme qui suit son homme, hein, point barre, elle suit son homme et avec un enfant dans les bras. Et elle arrive en Tunisie et personne ne les attend. Enfin, voilà. c'est terrible. Et pour beaucoup, je veux dire, ça a été un peu quand même les oubliés d'un côté et de l'autre. Ben, d'un côté, je veux dire, elles ont quitté la France. Bon, c'est un peu normal que la France n'en parle pas trop. Mais en Algérie, ça n'a pas été, à quelques exceptions près, ça a jamais été le sujet, un sujet qui a été soulevé, quoi.
Aujourd'hui, Stanislas Frenkel, ça, la trace de cet événement est toujours vivace, ça remonte à 50 ans quand même, aujourd'hui en Algérie.
Oui, oui, bien sûr, ça a laissé un héritage qui a été réveillé aussi lors de l'exploit, lors de la Coupe du Monde 82 de l'équipe algérienne face à la RFA, d'autant plus que le directeur technique à ce moment-là était Rachid Mekloufi. Donc oui, cette équipe du FLN, c'est un lieu de mémoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va plutôt tomber dans l'oubli dans les années 70-80. Et au moment où l'Algérie connaît une grave crise identitaire, la décennie noire,
oui,
où il y a des 90, grandes tensions, ouais, entre laïcs, religieux, entre également le mouvement islamiste, entre quelle société veut-on pour l'Algérie dans ces années-là, plus des tensions identitaires liées à des revendications régionales, kabyles, etc. Là, on va ressortir du chapeau l'équipe du FLN, et en 99 va être créée la fondation de l'équipe du FLN, et une stèle tout près de la grande poste d'Alger. Et là, les anciens joueurs, ces anciens moudjahidines du football, hein, vont être mis un petit peu en avant par l'État, qui cherche des symboles forts de sacrifice, de dévouement, d'énergie aussi, et aussi symbole de jeunesse. Et c'est également des footballeurs qui ont tout quitté.
Mmh. Oh, juste une parenthèse, hein, vous évoquiez la Coupe du Monde 82, de sinistre mémoire pour ce qui concerne l'Autriche et l'Allemagne qui s'étaient arrangés pour ne pas jouer. Ils se sont rencontrés pour éliminer l'Algérie, un match nul, minable, honteux. On l'appelait le match de la honte. Allez, on oublie parce que c'était pas le glorieux. Ne quittez surtout pas, messieurs, on écoute Pierre Facchini, Firefly, et on se retrouve juste après. Affaires sensibles aujourd'hui, l'histoire de l'équipe du FLN, Stanislas Frenkel. Je voudrais revenir sur la réaction du FLN. Bon, on a vu qu'elle était froide, hein. Des dirigeants indépendantistes, on a vu que c'était la réaction de l'ALN. C'était froid, on n'a pas aimé cette initiative parce qu'elle venait pas d'en haut, parce qu'elle venait de la base et que l'organisation politique pour l'indépendance de l'Algérie voulait garder le contrôle de tout ça.
C'est tout à fait probable. On voit bien cette absence de coordination. Cette initiative est quand même rejetée au début puisqu'elle vient de la Fédération de France du FLN et non pas du FLN lui-même, de
oui,
la base.
Ça.
Et donc voilà, donc là vous avez très bien décrit cet accueil très froid, la grande surprise et la stupéfaction des joueurs qui arrivent, qui ont tout quitté et qui ne sont pas attendus. Et qui ne sont pas attendus, alors que faire, vous l'avez bien dit, le doute commence à s'installer. Faut-il revenir ? Faut-il rester? Et heureusement, cette initiative de Ben Tifour, qui connaît bien Tunis pour y avoir joué, eh bien, va permettre aux médias, aux journalistes, en fait, il va y avoir une espèce de mayonnaise qui va prendre. Et puis, l'équipe du FLN l'a dit à Marouaï dans le documentaire, c'est une équipe qui est médiatique, en fait. Et c'est comme ça, finalement, que le FLN va y trouver son intérêt.
Mmh. Et Slim, est-ce que dans cette histoire que vous a raconté votre père, alors il y avait quelque chose de glorieux, évidemment, et je pense qu'il en était fier, il y a de quoi, mais est-ce qu'il avait quelque amertume, quelques regrets quand même, parce que tout n'est pas toujours absolument parfait dans une initiative comme celle-là?
Disons que si amertume il y a eu, ça sera post-indépendance, avec le pli qu'a pris le mouvement, on va dire, du football, etc. Mmh. Peut-être qu'ils avaient envie peut-être d'autres choses, ils s'attendaient à d'autres choses, plus d'implication, peut-être les impliquer encore un peu plus dans le mouvement, chose qu'ils ont fait dans les premières années. Après, on était dans un système politique qui était assez centralisé, donc ils ont eu des problèmes avec le ministre des Sports pendant une année où il y a eu un break total entre beaucoup de membres de l'équipe du FLN et le ministère de la Jeunesse et des Sports, et de là sont allés entraîner au niveau de l'équipe nationale militaire, en fait. Les militaires leur a tendu les bras, et de là ils ont composé, d'ailleurs il y a beaucoup de gars qui sont passés des équipes nationales, qui sont passés par ces sélections militaires, qui ont eu elles aussi de très bons résultats au niveau international. C'était vraiment deux années de formation pour les aussi, ça a duré deux années, le service militaire, et donc ils étaient tout de suite encadrés en équipe nationale, sachant les moyens que les militaires ont toujours eu dans notre pays. Ils étaient là pour travailler, et beaucoup ont énormément progressé durant cette période-là. Et ils étaient encadrés par, entre autres, aussi Rachid, les frères Soukane, beaucoup de joueurs du FLN ont fait partie de ces formateurs.
Et l'équipe d'Algérie d'aujourd'hui, c'est une belle équipe, hein? Non?
Là, c'est une équipe qui fait rêver. Son entraîneur est une personne, je ne le connais pas personnellement, mais tout ce qu'il fait est juste incroyable, parce qu'il faut gérer, hein, dans mon pays, il faut gérer la presse, la pression politique, il faut gérer. Et c'est énorme pour mon père l'a vécu, beaucoup de joueurs du FLM l'ont vécu, ça aussi, mm-hmm. hein, à l'époque. Quand l'équipe nationale jouait, c'est le destin de la nation, quelque part. Dans la soirée se joue tellement de choses. Et ils l'ont senti, hein, en 75, pour la finale des Jeux méditerranéens, par exemple, ça a été une pression, mais colossale.
Un dernier mot, Stanislas Frenkel. Donc, votre site s'appelle Temps de Sport. Qu'est-ce qu'on y voit? Dites-moi, en quelques secondes, vraiment, quelques secondes.
C'est la première chaîne YouTube destinée aux étudiants STAPS et aux passionnés d'histoire du sport. Donc, les étudiants STAPS, c'est ceux en faculté de sport. Donc, tous les conseils pour réussir leur année, réussir leurs examens, réussir leur CAPEPS. Et il y a aussi beaucoup de vidéos sur le football algérien, avec des interviews d'anciens joueurs.
Voilà. On va renvoyer nos auditeurs sur ce site, justement, pour compléter ce qu'ils peuvent apprendre dans cette histoire. Merci, messieurs. Merci infiniment. Merci. Ça va un peu vite, et surtout quand on est deux. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'équipe du FLN, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamence. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récits et recherches documentaires, Odile Conseil, Isabelle Maillot, Adrien Mora et Gaspard Valu. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chaudebois. Lecture, Aurélien Labruyère et Philippe Pirard. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Lauriane Toulmont.